Qu'y a-t-il entre les Gaulois et Charles de Gaulle ? 2000 ans d'histoire, l'émission de Patrick Chéliné.
Bonjour, aujourd'hui, de Gaulle en 68.
Mais enfin, perfide, expliquez-moi qui sont ces excités, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Charles de Gaulle, 9 mai 1968.
D'histoire. Le 24 mai 1968, à 20h, le général de Gaulle regarde à la télévision le discours qu'il a enregistré quelques heures plus tôt dans la salle des fêtes de l'Élysée. Il sait que les mots qu'il prononce ce soir-là ne sont pas à la hauteur des circonstances. Les étudiants continuent de manifester et les ouvriers d'occuper les usines. J'ai mis à côté de la plaque, reconnaît de Gaulle, qui ajoute « La situation est insaisissable ». Il est vrai que depuis 3 semaines, les événements semblent le dépasser, comme ils dépassent l'opposition politique et les syndicats qui prennent le train en marche, et même les étudiants qui les ont provoqués. Et si aujourd'hui, plus de 30 ans après, on comprend mieux ce qui s'est passé en 68 dans les rues de Paris, à la Sorbonne, à Nanterre ou à Boulogne-Billancourt, on connaît moins les raisons pour lesquelles, pendant près d'un mois, au sommet de l'État, le général de Gaulle a pour la première fois donné le sentiment de subir l'histoire.
Grenade lacrymogène, juste devant les grilles du Bac de Luxembourg. Grenade lacrymogène, donc rue Gay-Lussac. Les yeux piquent, c'est maintenant l'affolement. Tout le monde monte aux barricades, armé de pavés. Les mouchoirs se mettent sur le nez. Et la tension a d'un seul coup monté. On pleure et on pleure pas mal. Les étudiants scandent des mots d'ordre. Eh bien, vous l'entendez, les étudiants scandent de Gaulle, assassin. Je vous rends l'antenne. À tout à l'heure.
Alain Gérard Slama, bonjour.
Bonjour.
Ah, quand on parle de mai 68, c'est le plus souvent à partir des souvenirs et du point de vue des étudiants, sans s'attarder sur ce qui s'est passé à l'époque et qu'on ignorait assez, c'est-à-dire ce qui se passait dans les coulisses du pouvoir. Or, dans le 3e volume de C'était de Gaulle, d'Alain Perfitte, que vous avez bien connu, oui. Un livre qui vient d'être publié chez Fayard, on découvre au jour le jour ce qui s'est passé justement en mai, à l'Élysée, à Matignon, et puis dans les ministères, comme celui d'Alain Perfitte, qui était, il faut le rappeler, ministre de l'Éducation nationale. C'est un livre tout à fait extraordinaire qui apporte beaucoup de révélations.
Ah, le témoignage est d'une rigueur et d'une honnêteté scrupuleuse. De surcroît, il repose sur des notes prises au jour le jour qui sont d'une vie intense et qui restituent très exactement l'incertitude dans laquelle tout le monde à ce moment-là se trouvait. Mais quand je dis tout le monde, c'est pas seulement les gens du pouvoir. Rappelons-nous que le 3 mai, par exemple, Alain Gessemard téléphone le 7 mai. Alain Gessemard téléphone à Alain Perfitte pour lui dire « Je ne maîtrise plus la situation.
Oui, » c'est pour ça que j'ai dit.
Alain Gessemard était le leader donc du SNESUP et il dit « Mais enfin, arrêtez ça, nous ne maîtrisons plus la situation, nous ne savons plus où ça
les
va. »
Les étudiants ne savaient sans doute pas effectivement que le mouvement qu'ils ont lancé
tout
depuis le monde mai prendrait une telle ampleur. Et justement, c'est peut-être ce qui explique aussi les hésitations du pouvoir et autre chose surtout qui explique peut-être que le pouvoir est paru paralysé à un moment donné et on le découvre dans le livre de Perfitte, c'est la division qui existe au sommet de l'État avec des partisans de la fermeté face aux étudiants et puis au contraire des gens qui sont plutôt favorables à la souplesse.
Il y a les faucons et les colombes, il y a ceux qui sont absolument persuadés que un coup de semonce très très ferme ramènera le calme dans toute cette affaire, que c'est une blague de gosse et d'adolescent, une crise d'adolescent et bon et que donc il suffit que le père fronce le sourcil.
Ben, le père c'est de Gaulle.
Hein, oui. C'est-à-dire de Gaulle et de Gaulle est d'une certaine manière à Alain Perfitte qui lui était ferme mais jugé quand même trop mou par De Gaulle, ce qui est un comble. Et puis, de l'autre côté, il y avait bien entendu les colombes, c'est-à-dire Pompidou et les autres, ceux d'ailleurs auxquels, très honnêtement, Pompidou, Perfitte rend hommage, en leur disant que grâce à eux, il n'y a pas eu d'effusion de sang.
Les faucons, donc de Gaulle, hein, on voit dans le livre de Perfitte quelques propos du général de Gaulle, notamment le 8 mai, s'adressant à Perfitte, à Jox et à et à Fouché, qui est ministre de l'Intérieur, quand une insurrection se déclenche, il ne faut pas chercher à amadouer les insurgés, il faut les réduire. Ramassez-en quelques centaines, dit De Gaulle. Soyez intraitables. N'oubliez pas, dit-il à Fouché, qu'un ministre de l'Intérieur doit savoir, s'il le faut, donner l'ordre de tirer.
C'est ça. De Gaulle ajoute quand même, tirez-leur dans les jambes, n'est-ce pas?
Oui, bon, mais pas
enfin,
énorme,
ça. Mais enfin, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que ça n'a pas eu lieu et que néanmoins les étudiants traitent De Gaulle d'assassin. On l'a entendu à l'instant, n'est-ce pas? C'est bien dire que le climat de menace pesant sur les étudiants était ressenti comme tel et que néanmoins ça ne faisait rien. Ça, à mon avis, ça plaide évidemment contre la thèse des Faucons.
Alors la stratégie du Premier ministre, Georges Pompidou, qui est parti, qui était à Kaboul en visite officielle à l'époque, quand il dès son retour, la stratégie est très différente. Hein. Écoutez, Georges Pompidou, justement, le problème, c'est au lendemain des barricades de la rue Gay-Lussac, qui ont été d'une violence inouïe, dans la nuit du 10 au 11 mai, Pompidou rentre de Kaboul et prend des mesures aussitôt destinées à apaiser la tension. Écoutez-le, c'était le 11 mai 68 à 23h.
J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi, également, la cour d'appel pourra, conformément à la loi, statuer sur les demandes de libération des étudiants condamnés.
Il faut rappeler à l'agence Lama donc que la Sorbonne avait été fermée par la police, que les étudiants, ce qui entraînait des manifestations à répétition du jour au lendemain, étaient arrêtés à chaque fois qu'ils manifestaient. Mais ça, que fait Pompidou là? D'abord, il prêche la souplesse, mais il avait l'accord de De Gaulle.
Il a arraché son accord à De Gaulle en le menaçant de sa démission. N'est-ce pas? C'est une des révélations. C'est une des révélations du livre de Perfit. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'imaginait pas De Gaulle donnant cet accord, d'autant plus qu'il avait tendance à minimiser les choses. On s'aperçoit, on sait que les circonstances d'occupation de la Sorbonne ont été entraînées par l'irruption sur la scène des comités d'action lycéens, n'est-ce pas? Et Alain Perfit fait référence à un film de Romain Goupil qui a apporté lui aussi depuis fin 68 cette révélation. C'est-à-dire qu'on se disait à chaque fois, tout ça c'est un entraînement de circonstances, mais on peut y tenir tête. D'autre part, le fait de faire intervenir la police dans la Sorbonne n'est pas du tout la violation d'un sanctuaire. Ça s'est fait 50 fois dans le passé.
Oui.
Or, on avait entretenu cette espèce de mythe.
Mais rouvrir la Sorbonne à Georges Lama, bon, on a beaucoup dit que ça avait contribué à apaiser la tension. Pompidou était lui-même persuadé, il le dit, on a encore une révélation de Perfit. Tout sera fini, dit-il, en 48 heures. Or, en 48 heures, ça n'a pas été fini, ça
absolument
a continué.
Absolument. Celui que Mitterrand avait appelé drôlement le miraculé de Kaboul a peut-être fait une boulette, sans jeu de mots. C'est-à-dire qu'il y a eu une correspondance tout à fait passionnante entre Pompidou et Raymond Aron. Raymond Aron avait sur l'instant critiqué cette décision en disant ça va entraîner la chienlit. D'une certaine façon, c'est vrai, n'est-ce pas? D'ailleurs, que pouvait-on faire entre nous? Et Pompidou s'est donné la peine ultérieurement, deux mois après, d'écrire à Raymond Aron pour lui dire si je n'avais pas rouvert la Sorbonne, il y avait le rendez-vous du 13 mai,
voilà,
le jour
justement
après, et évidemment, du coup, c'était une situation révolutionnaire qui s'ensuivait.
Justement, malgré cette modération, le mouvement donc de mai se poursuit, même s'étend au syndicat, vous le disiez, qui décrète une grève générale pour le 13 mai 68, premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, et l'occasion pour ses adversaires de défiler dans la rue.
Rue Gay-Lussac, les rebelles n'ont que les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
La révolution, la belle, est le jeu que vous disiez. Elle se joue dans les ruelles, elle se joue grâce aux pavés.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Le vieux monde et ses séquelles, nous voulons les balayer. Il s'agit d'être cruel, mort aux flics et aux curés.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Si j'ai foi dans ma querelle, je ne crains pas les policiers. Il faut qu'elle devienne celle des camarades ouvriers.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Le gaullisme est un bordel, personne n'en peut plus douter. Les bureaucrates aux poubelles, sans eux on aurait gagné.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. du sac les rebelles, donc les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez?
Les canons par centaines, les fusils par milliers, les canons, les fusils par centaines, par milliers.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui De Gaulle en mai 68.
Et puis une chanson donc de mai 68 sur des paroles de Louis Aragon, paroles dans lesquelles on entend « Le gaullisme est un bordel hein, », c'est étonnant, sous la plume d'Aragon. C'est vrai qu'on a le sentiment à l'époque, Jars Lama, encore une fois, que malgré la fermeté de De Gaulle, malgré la modération de Pompidou, la situation reste totalement bloquée, d'autant que De Gaulle part en Roumanie, c'était un voyage officiel qui était prévu et qu'il décide de maintenir, et que tout le monde attend son discours, le discours prévu de longue date, le 24 mai, l'annonce d'un référendum qui maintenant d'ailleurs ne ramène pas du tout le calme chez les étudiants qui écoutent ce discours donc le 24 mai 68 sur leur transistor.
Français, français.
En ce moment même, il y a des flammes qui montent à l'intérieur de la bourse, car des manifestants ont pénétré, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de la bourse. Ils ont forcé tout d'abord les grilles, ils ont monté les marches, ensuite ils ont enfoncé les portes. Ils ont déposé à l'intérieur de la bourse des cajots qui traînaient par là, les détritus aussi qui étaient dans le coin, justement, rue du 4 septembre, rue Vivienne, et ils les ont mis à l'intérieur et ils les ont enflammés.
Le discours de De Gaulle à Jars Lama le 24 mai, c'est un des rares discours qui n'eut aucun effet, et d'ailleurs même l'effet inverse de celui qui était recherché.
Parce que ce n'était pas un discours entraînant une décision. En fait, je rejoindrai volontiers les analyses qui ont été données par les psychanalystes comme Mendel, la révolte contre le père. C'est-à-dire que les jeunes attendaient néanmoins de la part du pouvoir une manifestation d'autorité, que le père se manifeste. Et là, le père ne s'est pas manifesté. Il a la faute de De Gaulle, c'est l'histoire du référendum. C'est l'histoire de la révision des institutions, alors que l'acte, on en dira un mot, bien sûr, mais l'acte de dissolution, ça, c'est immédiat.
Ça fait choc. Mais là, vraiment, il y a manifestement une paralysie totale du pouvoir. Pompidou, de son côté, toujours partisan de négocier, etc., négocie cette fois-ci avec les syndicats. Ce sont les accords de Grenelle, mais ça ne marche pas non plus. Ils sont signés le 27 mai. Les dirigeants syndicaux acceptent, mais la base refuse de suivre et la France reste en grève.
Absolument. Et si vous voulez, ce qui se passe dans une situation comme ça, on le voit très bien dans le cas de Perfit lui-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui considère qu'il faut utiliser qu'il faut être énergique pour débloquer cette situation, mais ils n'ont absolument aucun des moyens de le faire, tout simplement parce qu'ils veulent aller en même temps par leur discours dans le sens des étudiants. Ils disent on comprend la société, on comprend les étudiants, on comprend l'université, et Perfit propose des réformes avec les encouragements de Gaulle que personne ne veut
entendre. Tout ça reste bloqué, voilà justement que se manifestent maintenant quelques ambitions politique dont la plus remarquée est celle-ci, vous reconnaîtrez sa voix, c'était le 28 mai 1968 à midi.
Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. Qui formera le gouvernement provisoire? S'il le faut, j'assumerai cette responsabilité. Mais il en est d'autres qui peuvent y prétendre au même titre. Et je pense d'abord à M. Pierre Mendès-France. Et qui sera président de la République? Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, je suis candidat.
C'est François Mitterrand, donc le 28 mai 68, il prend rendez-vous avec l'histoire, mais en même temps, ça ne lui a pas porté bonheur, ça.
Disons que ça a été très exactement le contrefort auquel la majorité au pouvoir avait besoin de s'appuyer pour rebondir.
Effectivement.
Il lui fallait une opposition identifiable.
En tout cas, le mouvement, après avoir été un mouvement étudiant, puis syndical, avec la grève générale, se politise soudain le 28 mai, et le lendemain, juin, donc coup de théâtre. De Gaulle disparaît plusieurs heures le 29 mai, provoquant évidemment l'agitation dans les salles de rédaction de la revue de la presse des 29 et 30 mai 68. Stéphanie Duncan.
Oui, c'est mercredi 29 mai, avant même qu'on sache que De Gaulle a disparu. Toute la presse est en alerte. De Gaulle va-t-il démissionner? La gauche va-t-elle prendre le pouvoir? Les communistes, en tout cas, sont prêts. Gouvernement populaire et d'union démocratique à participation communiste. Titre sans ambiguïté, l'humanité. Il est temps que De Gaulle s'en aille, telle est l'exigence populaire. Mais il n'y a pas que les communistes, c'est aussi l'exigence de Pierre Vianson-Ponté dans Le Monde. Une seule issue, la démission, dit-il. Même le canard enchaîné, qu'il a tant caricaturé, en a assez du général. Plus jamais le pouvoir d'un homme seul, plus jamais sur cette France si jeune, le règne du vieillard Pétain ou du vieillard De Gaulle.
Eh ben, dites-moi, comme parallèle, c'est audacieux.
Eh oui, avec bien sûr quelques dessins gratinés où l'on voit la longue et lourde silhouette déguisée en Louis XIV, en route pour Colombey, les deux exils. À droite, François, fidèle au gaullisme, se demande en revanche si la France pourra survivre à son sauveur. Tout s'écroule autour de lui, la hache a entamé le tronc du vieil arbre. Doit-il s'effacer ou lutter jusqu'au bout? Nul ne peut souffler la réponse, De Gaulle est seul. Le Figaro s'inquiète moins du sort du général que de l'imminence de la Révolution. Les événements se précipitent à Paris. Le Parti communiste et la CGT ont choisi la fuite en avant. Les plombs ont sauté. Alors le lendemain, donc le 30 mai, la presse n'est pas unanime pour décréter De Gaulle vaincu. On apprend donc que la veille, il a quitté Paris à 11h15 pour n'atterrir à Colombey qu'à 18h15. Qu'a-t-il donc fait entre-temps? Coup de théâtre, mystère et suspense, titre Le Parisien libéré. Le président de la République aurait rencontré des hommes politiques. On avance le nom d'Antoine Pinet. Rumeur, simple rumeur. L'humanité, qui a eu l'occasion de pratiquer le général, se méfie. De Gaulle à Colombey, retraite ou manœuvre? Et Daniel Mayer, dans Combat, soupçonne, je cite, une ultime tactique du grand acteur qui déjà, il y a 15 ans, était rentré dans son village pour en mieux revenir. Et c'est aussi le sentiment à ce moment-là d'Alain Perfitte, si l'on en croit ses mémoires. Prépare-t-il un coup? Je n'arrive pas à imaginer d'autre hypothèse que celle-là, dit-il. Qu'il ait envie de prendre du champ, d'échapper à l'atmosphère survoltée de Paris, cela lui ressemble. Qu'il veuille semer la panique en faisant croire à son retrait, cela lui ressemble encore plus, dit encore Perfitte. Qu'il veuille baisser les bras définitivement, cela en revanche ne lui ressemble pas du tout. Et Alain Perfitte ajoute une petite grande pique à l'égard du Premier ministre. Autour de Pompidou, dit-il, cet après-midi, midi, crainte ou secret désir, on se convainc que le général, écœuré, ne reviendra plus et que c'est à Pompidou de s'affirmer maintenant comme le chef.
Pompidou, Alain Gérard Slamat, ignorait totalement où était passé De Gaulle. C'est-à-dire qu'il y a un Premier ministre qui ne sait pas où est le président de la République. Comme tous les Français, on a su que le lendemain, qu'il était parti à Baden, donc auprès du général Massu. Là-dessus, il y a eu beaucoup d'hypothèses. Perfitte et même, d'une certaine manière, l'humanité sont d'accord. Retraite ou manœuvre? Pourquoi De Gaulle est parti à Baden?
Il est difficile d'imaginer la retraite. C'était la conviction de Pompidou. Et d'ailleurs, aux textes qui ont été lus, je voudrais ajouter, et Perfitte a l'honnêteté de le citer, Giscard d'Estaing disant c'est pas De Gaulle qui doit partir, c'est Pompidou. Et Perfitte a écrit à ce moment-là à Pompidou pour lui dire qu'il réprouvait ce coup de poignard dans le dos. Donc voyez, les choses sont très très complexes. Je pense que dans le cas de De Gaulle, c'était clair, il voulait d'abord s'assurer de la fidélité de l'armée.
On a même dit qu'il voulait utiliser l'armée, est-ce
oui,
possible?
Oui, qu'il voulait l'utiliser, c'est très difficile à savoir. Mais ce qui est très clair, c'est que pendant toute cette période, il réagit en militaire. Il pense en militaire jusque la réforme même de l'éducation, d'ailleurs, hein, qu'il ne conçoit pas, par exemple, quand Perfitte lui parle d'épanouissement ou de pédagogie, De Gaulle pousse des cris d'horreur. Bon. Donc, il réagit constamment en militaire. Et dans cette affaire-là, pour un militaire, le moyen de prendre le pouls de la nation, de savoir quelle est la température, c'est d'aller voir les soldats, c'est d'aller voir l'armée. Première chose, s'assurer de l'armée. S'en servir, De Gaulle n'a jamais été un général de pronunciamiento, l'âge, la vieillesse est un naufrage, mais il le savait, il avait écrit à propos de Pétain. On imagine mal qu'il ait sombré de la sorte. Maintenant, l'hypothèse Perfitte me paraît la bonne, c'est-à-dire vouloir créer un grand coup d'émotion dans le pays et spéculer sur ce choc.
Perfitte rappelle une formule qu'avait souvent prononcée De Gaulle dans le passé. Il faut savoir, à certains moments, disait De Gaulle, garder un silence effrayant. Voilà. Et ne pas se laisser faire aux pattes. Autrement dit, il aurait pris du recul dans la perspective de ce fameux discours qui va tout renverser. De Gaulle, donc, le soir du 29 mai, est à Colombey, ça tout le monde le sait. Il rentre à Paris le lendemain, 30 mai, et va prononcer ce discours donc, qui fait tout basculer. Écoutez, c'était à 16h30, donc le 30 mai 1968.
Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité mérite l'hommage de tous. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main en conséquence et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national, lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Eh bien non, la République n'abdiquera pas, le peuple se ressaisira, le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France.
Ce discours a tout fait basculer Alain Jars Lama.
Et il a fait tout basculer, moins à cause des dernières phrases contre le Parti communiste, qui a été en réalité un allié objectif.
Oui, du pendant en mai 68.
Il a été au début de mai et il a été à la fin. Entre les deux, il s'est laissé entraîner.
Perfide d'ailleurs dit à ce sujet, vendredi dernier, il parle du 24, le précédent discours, De Gaulle avait délivré une parole juste qui sonnait faux parce qu'elle ne correspondait pas à la situation du jour. Aujourd'hui, c'est-à-dire le 30 mai, il a formulé des accusations peut-être fausses, celles visant le Parti communiste, mais qui sonnent juste et atteignent leur cible.
De Gaulle a cru à un coup de Prague, alors que, c'est en tout cas ce qu'il a dit à Alain Perfitte, et alors que la situation, c'était une situation où on avait des révolutionnaires sans révolution. Mais le caractère efficace, effectif de ce discours,
c'est la décision
de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, il faut bien convenir que le verbe est gaullien. Le discours est magnifique d'ailleurs, dans sa prose, est parfaitement adapté et ajusté. N'oublions pas qu'il a été prononcé à la radio, ce qui était également extrêmement important.
On ne le voyait pas.
Car on ne voyait pas le général.
Le 18 juin,
et que les transistors avaient été
juin,
le moyen de diffusion.
Mai.
Voilà. Ce qui avait été le transistor, le moyen de diffusion de la crise, allait être également l'instrument de son reflux. Mais profondément, cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale, on sait que c'est Pompidou qui l'a emporté.
Et puis c'est le moment aussi, il faut bien dire, où les Français sont angoissés. Là, vraiment, on est dans l'impasse, il n'y a plus de solution, ils sont privés d'essence. Là, peut-être que le pouvoir, d'ailleurs, a fait exprès de les priver d'essence pendant des semaines.
C'est une stratégie Pompidou.
Donc, effectivement, c'est vrai que le moment est opportun pour tout faire basculer et provoquer, au moment où De Gaulle part, la peine a-t-il terminé, cette immense manifestation devant un journal que vous connaissez bien, le Jars Lama, c'était donc le 30 mai, en fin d'après-midi.
Bien, moi, je me trouve devant le rond-point des Champs-Élysées. Je suis au premier étage du journal Le Figaro, où passe en ce moment, si vous voulez, le corps de la manifestation. Je crois qu'on peut avancer le chiffre de 700 000. Les manifestants passant devant Le Figaro crient tous le même slogan, Le Figaro avec nous, Le Figaro avec nous. En tête du cortège, donc, un immense drapeau tricolore frappé d'une croix de Lorraine. Derrière, des ministres. Parmi ces ministres, messieurs Debray, Malraux et Schuman. Plusieurs slogans, arrêtez la violence, Mitterrand à la santé, Mendès au rencard, Giscard avec nous. Des portraits, aussi des portraits du général de Gaulle, et puis des banderoles où l'on peut lire vive la France, vive de Gaulle, et beaucoup de gens parmi les badauds, des gens qui se trouvent sur le trottoir et qui font avec les deux doigts le signe que l'on connaît bien, le signe du V, le signe de la victoire.
Vous vous souvenez de cette manifestation, Gérard Slama?
Bien entendu. Bon,
devant le Figaro, vous travaillez aujourd'hui.
Oui. Je ne travaillais pas. Cela dit, j'ai lu les textes du Figaro, les articles du Figaro sur mai 68 pendant cette période, et ils sont intéressants parce que le Figaro était plutôt favorable à la révolution de mai, n'est-ce pas? On reprochait déjà au Figaro de ne pas être assez à droite. Mais par en tout cas ceux qui demandaient au Figaro d'être avec eux, vieil appel auquel on ne sait jamais quand il sera répondu.
En tout cas, cette manifestation met un terme. Pour la première fois, c'est les gaullistes et non plus les étudiants qui sont dans la rue. Et puis tout va retomber comme un soufflet. Les élections législatives vont avoir lieu. C'est vrai que les partis et les syndicats sont obligés d'amener leurs troupes à l'ordre, de faire reprendre le travail. Autrement, les soupçonnent de vouloir empêcher les législatives. Et c'est le raz-de-marée des gaullistes aux législatives de juin 68 et la fin d'un mouvement À qui peut-on attribuer cette, comment dirais-je, ce renversement de situation, à De Gaulle ou à Pompidou, puisqu'au fond c'est la question qu'on se pose depuis le début?
Eh bien, je vous répondrai comme le fait le livre, qui est un peu notre référence aujourd'hui, et les deux, mon général. Il fallait à la fois De Gaulle, qui représentait le principe d'autorité, et Pompidou, qui représentait tout simplement la lucidité.
Eh bien, merci en tout cas, l'ingénieur Slamat, de nous avoir rappelé ce qui s'est passé au sommet du pouvoir en 1968, et à partir donc du livre d'Alain Perfit, auquel on a longuement fait référence, c'était De Gaulle, le tome 3, donc, de Alain Perfit, paru aux éditions de Fallois, chez Fayard. Et puis également, on peut mentionner un autre livre, De Gaulle face aux crises, de Jean-Pierre Guichard, publié au Cherche Midi Éditeur. Également, De Gaulle pour mémoire, de Odile Rudel, aux éditions La Découverte Gallimard. Et puis, je vous signale également, bien sûr, la parution, ce mois-ci, des mémoires du général De Gaulle dans la collection de la Pléiade, chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits des journées de mai 68 par des journalistes de RTL, car vous oubliez que l'ORTF était en grève. C'est un CD disponible donc chez Polygram. Je rappelle que vous pouvez écouter notre émission sur Internet à n'importe quel moment et n'importe quel jour en composant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, et avoir plus de renseignements sur l'émission en téléphonant au 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Arnaud Caillé, archivina Christelle Rousseau, documentation Elsa Boublil et Christina Villarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Daniel Fontana Rosa.
Une émission de Patrice Gélinet.
Et le prochain rendez-vous avec 2000 ans d'histoire de Patrice Gélinet, ce sera lundi à partir de 14h.
Tu me fais tous les plans sadiques, tu me fais tourner en bourrique, puis tu me fais ce sourire magnifique. Je te fais mille et une misères, je te fais rentrer chez ta mère.